Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 1h en temps universel, à Paris 2h.
Mathis Limano.
Et à la une, la RDC toujours en proie à d'intenses combats, désormais concentrés au sud Kivu, où les combattants de l'AFC-M23 continuent de progresser. Leur force se rapproche de Bukavu. Le président congolais Félix Tshisekedi a écourté son voyage en Allemagne. Il a condamné les velléités expansionnistes du Rwanda, soutien des rebelles. Volodymyr Zelensky hausse le ton à la conférence sur la sécurité. Des négociations de paix sans Kiev et sans l'Europe seraient inacceptables, estime le président ukrainien. Et puis en France, une plainte est déposée contre Apple, la marque à la pomme, soupçonnée d'écouter ses utilisateurs. Ce journal débute donc en République démocratique du Congo, la RDC, où les combattants de l'AFC M23 continuent leur progression au sud Kivu. Ils sont arrivés à l'aéroport de Kavumu, à 35 km au nord de Bukavu. Un porte-parole de l'armée congolaise confirme que des combats ont eu lieu aux abords de l'aéroport avant de cesser. De son côté, le gouverneur de la province contacté par RFI indique avoir provoqué un conseil de sécurité en urgence, patient Ligaudy.
L'AFC M23 a atteint l'aéroport de Kavumu en fin de matinée après une progression rapide. Des tirs qui secouaient la zone dont la matinée ont cessé un peu plus tard. À Bukavu, à une trentaine de kilomètres, la tension est montée d'un cran. C'est une ambiance de ville morte toute la journée selon plusieurs témoins. Commerce, école et administration ont fermé précipitamment. L'après-midi, pas de circulation, les habitants rentraient à pied. Quelques coups de feu sporadiques ont été entendus dans certains quartiers. Des militaires visibles dans les points stratégiques de la ville ont renforcé leur présence, notamment à Niawera. En milieu de journée, le commandant de la 33e région militaire a effectué une patrouille dans la ville.
Et au chapitre diplomatique, le président congolais dénonce les velléités expansionnistes du Rwanda. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, Félix Tshisekedi a évoqué la situation dans l'est de la RDC. Suite aux derniers événements, il a justement écourté son séjour en Allemagne pour rentrer à Kinshasa. La conférence de Munich largement consacrée au conflit en Ukraine. L'avenir du pays au cœur des échanges ce vendredi entre les dirigeants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé à l'occasion d'une table ronde. Il a confirmé avoir discuté des négociations de paix avec Donald Trump, mais également rappelé qu'il ne fallait pas offrir une simple pause à Vladimir Poutine, mais bien une paix durable.
J'ai dit oui au président Trump, mais je pense que les appels téléphoniques restent des appels téléphoniques. Oublions ça. Je pense que ce qui est très important, ce sont les vraies rencontres. Ne prendre aucune décision sur l'Ukraine sans l'Ukraine. C'est une position de principe sur laquelle nous ne reculerons pas. Nous ne devons pas offrir à Poutine une pause. Et sans de véritables garanties de sécurité, nous lui donnerons cette pause. Je ne veux pas rester dans l'histoire comme celui qui aura aidé Poutine à occuper mon pays. Je ne veux pas ça. Et c'est pourquoi je ne le ferai jamais. Et c'est très important pour moi de faire pression sur Poutine pour qu'il impose toutes les sanctions. Je pense que le président Trump est prêt à le faire. Il a tout le pouvoir pour le faire. C'est pourquoi je veux vraiment venir à Washington n'importe quand, car je pense que nous devons absolument élaborer un plan commun.
Et c'est l'une des conditions posées par Volodymyr Zelensky, ne pas se présenter à la table des négociations en ordre dispersé, parler d'une seule voix, que ce soit depuis Kiev, Washington ou Bruxelles. Et depuis Paris, on estime que les Ukrainiens sont les seuls qui peuvent mener les échanges pour une paix solide et durable, et nous les y aiderons, écrit sur X Emmanuel Macron, après un entretien avec son homologue ukrainien. Volodymyr Zelensky, qui a aussi pu échanger avec J.D. Vance, vice-président américain, peu d'informations sur la teneur de ces échange, mais un constat. Lors de son discours devant les dirigeants, J.D. Vance a effleuré à peine le dossier ukrainien, préférant donner une leçon de démocratie à son auditoire du jour. La liberté d'expression est en retrait en Europe, un recul qui inquiète plus que la menace chinoise ou encore russe, a lancé le vice-président américain. L'Arabie Saoudite dit, elle, se réjouir à l'idée d'accueillir un sommet Trump-Poutine, une idée émise par le président américain après l'échange téléphonique avec son homologue russe. Aucune date n'a été communiquée pour le moment. Celle-là est connue de date. Jeudi prochain, le royaume accueille un tout autre sommet pour Gaza entre les pays arabes. Il se tiendra dans la capitale Riyad et devrait examiner en profondeur le plan américain et élaborer une réponse arabe. Pierre-Olivier, il s'agit ni plus ni moins d'une réponse à Donald Trump qui prévoit de transformer Gaza en Côte d'Azur du Moyen-Orient.
Les ambitions des États-Unis pour Gaza sont prises très au sérieux. Au Proche-Orient, témoigne ce sommet rapidement mis sur pied. 5 pays y sont attendus. L'Arabie Saoudite, bien sûr, en tant qu'hôte, recevra les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Égypte et la Jordanie, ainsi que des représentants de l'autorité palestinienne. Chacun devrait une nouvelle fois réitérer son refus d'un déplacement sans retour des Gazaouis, comme l'envisage le président américain, qui aimerait que l'Égypte et la Jordanie accueillent les habitants de l'enclave. Une idée qui avait provoqué un tollé sur la scène internationale, mais soutenue mordicus par Donald Trump, qui menace de couper l'aide américaine à ces pays s'ils refusent. En attendant ce sommet pour Gaza, le secrétaire d'État américain, qui entame une tournée de 4 jours au Moyen-Orient, a déclaré que pour l'instant, le seul plan était celui de Donald Trump et que si les pays arabes en avaient un meilleur, c'était le moment de le présenter. Une présentation qui devrait avoir lieu après un deuxième sommet pour Gaza le 27 février, organisé cette fois par l'Égypte, qui a déjà annoncé qu'elle présenterait une vision globale pour l'enclave.
Pierre-Olivier, le Hamas dit lui s'attendre à ce que les négociations de la deuxième phase de l'accord commencent en début de semaine prochaine. Elles se dérouleront à Doha, au Qatar, indique un responsable du mouvement islamiste palestinien. Information pas confirmée encore côté israélien. Par ailleurs, c'est ce samedi que 3 otages doivent être relâchés en échange de 369 prisonniers palestiniens. La force de l'ONU au Liban dénonce un possible crime de guerre et demande aux autorités libanaises une enquête immédiate. Réaction après qu'un véhicule des Nations Unies a été incendié près de l'aéroport de Beyrouth par des partisans du Hezbollah. Un officier a été blessé. Dans un communiqué sur X, l'armée libanaise promet d'agir avec fermeté et d'interpeller les auteurs de l'incendie. iPhone, Mac ou encore Apple Watch, la marque à la pomme, espionne-t-elle ses utilisateurs? Précisément l'assistant vocal d'Apple. Les médias Radio France et Le Monde révèlent qu'une plainte a été déposée cette semaine par la Ligue des droits de l'homme contre l'entreprise californienne. Elle repose sur le témoignage d'un lanceur d'alerte. Il accuse Apple d'avoir violé la vie privée de ses utilisateurs. Benoît Narbonne, ce n'est pas la première fois qu'un géant américain de la tech est mis en cause pour de telles pratiques.
Pour la première fois, il y a un témoignage, celui du lanceur d'alerte Thomas Le Boniek. Il travaillait en 2019 en Irlande pour un sous-traitant d'Apple en tant qu'analyste de données. Il écoute, retranscrit et trie les demandes enregistrées par l'assistant vocal. Par exemple, si un enregistrement « appel maman » est traité, un analyste va chercher le terme « maman » dans le répertoire de l'appareil pour indiquer à l'assistant la bonne procédure. L'objectif de ces corrections, améliorer les réponses de Siri. Le Boniek constate que des centaines de millions d'enregistrements sont ainsi captés à l'insu des usagers. Ils contiennent de nombreuses données personnelles, maladies, opinions politiques ou encore sexualité. Une captation de l'information d'ordre privé qui va à l'encontre de la régulation européenne sur la protection des données. C'est le sens de la plainte posée par la Ligue des droits de l'homme. Apple a réagi, affirmant ne pas utiliser les données personnelles de ses utilisateurs à des fins commerciales.
En France, le ministère de l'Éducation nationale demande au rectorat de Bordeaux d'inspecter l'établissement de Betaram. Le collège-lycée catholique proche de Pau, dans le sud-ouest, est au cœur d'un scandale de violence et d'agression sexuelle sur des élèves. Scandale qui éclabousse le Premier ministre, accusé par la gauche d'avoir menti sur sa connaissance des faits. François Bayrou était alors ministre de l'Éducation nationale lors des premiers signalements dans les années 90. Le chef du gouvernement doit rencontrer ce samedi à Pau le collectif des victimes de Betaram. Le pape François a été admis ce vendredi dans un hôpital de Rome. Le souverain pontife est hospitalisé pour une bronchite provoquant de fortes difficultés respiratoires. En dépit d'une légère fièvre, l'état de santé du pape est assez bon, assure le Vatican dans un communiqué. Et puis c'était les victoires de la musique en France ce vendredi. La confirmation d'abord pour Zao de Sagazan. Après son quadruple sacre l'année dernière, elle rafle cette année le trophée d'artiste féminine de l'année. Mais la soirée était surtout marquée par le double sacre de Pierre Garnier, désigné révélation masculine, également chanson de l'année pour Ce qu'on était, qu'il a interprété sur la scène des victoires de la musique.
J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était.
Ce qu'on était de Pierre Garnier, le vainqueur de la saison 11 de la Star Academy. Désigné donc révélation masculine et chanson de l'année pour Ce qu'on était.